Europe 1.
<t'en> 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce studio Coluche pour ma foi un nouveau numéro, certainement très qualitatif, d'Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter, selon la formule consacrée.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde, mais qu'est-ce qui vous arrive Mathieu? Je vous sens bien triste aujourd'hui.
Je ne suis pas triste Stéphane, je m'auto-censure, et comme je suis d'une nature assez exubérante, ça donne ce ton qui vous paraît mou mais qui est juste neutre.
Mais pourquoi est-ce que vous vous auto-censurez?
Mais parce que c'est notre thème du jour Stéphane, ils se sont auto-censurés.
Ah, vous m'avez fait peur. Oui, cet après-midi on réunit trois grands personnages qui se sont en effet auto-censurés. À commencer par le célèbre Molière, aux pièces tout aussi célèbres qui, vous le verrez, a volontairement modifié certains de ses écrits, de ses répliques, de ses personnages, pour éviter de déplaire et pouvoir continuer à les jouer ou à dire ce qu'il voulait dire sans se faire attraper. Puis je vous raconte un écrivain emblématique, premier étranger à être élu à l'Académie française, qui n'a pas tout dévoilé dans son journal qu'il a écrit tout au long de sa vie. Loin de là, Julien Green a volontairement censuré la partie la plus intime, celle concernant son homosexualité qu'il vivait intensément apparemment. Des écrits très crus, dévoilés depuis, vous verrez.
Oh, vous nous lirez des petits extraits ?
Je ne sais pas, vous avez, ça risque de vous défriser. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un grand penseur contemporain dont les livres se sont vendus à des millions d'exemplaires, mais qui lui aussi alors s'est auto-censuré.
Oui Stéphane, je suis tombé des nues quand j'ai appris ça. Yuval Noah Harari, vous situez? Sapiens, Homo Deus, je suis sûr que vous avez lu ça entre deux biographies de Lino Ono. Eh bien, cet éminent penseur, radicalement progressiste, vous êtes d'accord? Oui. Eh bien, il a accepté qu'un de ses best-sellers soit censuré en Russie. Alors, quel était le passage qui posait problème? Et au-delà, qui est vraiment Yuval Noah Harari? Réponse vers 17h20.
Et avec nous, comme chaque jour, eh bien, celles et ceux qui ne se censurent jamais. Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Mais dites donc, pour une émission sur l'autocensure, ça m'a l'air d'être parti pour être extrêmement caliente, et là, avec Julien Green.
Mais oui, on la dénonce, l'autocensure.
Ouais, ah bah alors oui, mais alors on continuera avec Arletty. Arletty qui n'était pas du genre à se censurer, bien au contraire, elle ne s'interdisait rien, y compris de jouer avec le feu pendant l'occupation.
Alors qu'elle était une personnalité. Entrer, hein.
Ah oui, mais vous verrez, vous allez quand même peut-être apprendre quelques petits trucs sur elle. Hein,
parce qu'elle est bien. Ouais.
Et puis avec nous, David Castel-Lopez, qui remonte aux origines d'une invention, d'une mode.
Sacrée invention aujourd'hui.
Ce sont les tigres tamouls. Ah, oui. Et j'ai fait un petit sondage dans la rédaction à comme ça, j'ai demandé, ça vous dit quoi les tigres tamouls avant de faire cette chronique? Rien, en fait.
Donc, il va falloir C'est le Sri Lanka.
J'arrive parce que moi j'ai dit Sri Lanka et Bidoche.
Non, elle a dit c'est de la viande, c'est un plat chinois.
Elle a compris avec le tigre qui pleure.
Ça ressemble, écoutez. Bon, ça va, censure.
Stéphane a quand même dit le tamoul qui pleure. Stéphane, non, ça va trop loin.
Les tigres tamouls, c'est un groupe armé sri lankais, une histoire passionnante, je vous la raconterai.
Rien à voir avec le tigre qui pleure.
Non, rien
mais
à voir.
Puisqu'on parle de cuisine, eh bien, on retrouve Olivier Pouls.
Ouais, et pas de censure, ni de régime d'ailleurs. Aujourd'hui, tenez, regardez, je vous ai apporté.
C'est vous qui les avez fait?
Non. Mais ils sont quand même bons. Je vous ai apporté des donuts.
Il y a des boutiques dans la ville de donuts. Il y a des files d'attente devant les boutiques de donuts.
C'est pour de la pâte pas cuite. Moi, je vois, on se croirait en Union soviétique dans les années 30.
Oui,
les gens font la queue pour de la pâte non cuite dans des petits gobelets.
Oui, c'est ça
le truc up to date.
Je vais vous faire des photos, vous verrez.
Ça existe, ça?
Oui, ça existe.
D'accord, vous nous expliquerez. Enfin, un peu comme le donut, notre émission est constituée en son centre d'un vide. On appelle ça Bern to be alive. Ce quiz loufoque qui oppose chaque jour ces deux grands pontes que sont Bern et Kaltenbach. Rendez-vous vers 5h-10. Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage du jour. Il y a ceux qui ne se censurent jamais.
J'aime beaucoup Tino Rossi, oui.
Et ceux, comme le plus célèbre des dramaturges français, qui ont appris à éviter certains sujets, ou du moins à les déguiser habilement. Stéphane Bern nous raconte Molière, qui a pratiqué l'autocensure.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il y a des auteurs qu'il faut lire plusieurs fois, car le sens de leur texte n'est pas toujours celui que l'on croit. Prenez L'amour médecin, comédie-ballet de Molière, présenté pour la première fois à Versailles en 1665. Acte 3, scène 1. Monsieur Filerin, médecin puissant et respecté, s'adresse ainsi à ses confrères. Nous ne sommes pas les seuls, comme vous savez, qui tâchons à nous prévaloir de la faiblesse humaine. Chacun s'efforce de prendre les hommes par leurs faibles pour en tirer quelque profit. Quelle piètre vision de la médecine que celle que nous dépeint ici Molière. Mais est-ce bien de la médecine dont il parle ? Reprenons cette même tirade en imaginant non plus une assemblée de médecins, mais de religieux. Nous ne sommes pas les seuls, comme vous savez, qui tâchons à nous prévaloir de la faiblesse humaine. Chacun s'efforce de prendre les hommes par leurs faibles pour en tirer quelque profit. Mais le plus grand faible des hommes, c'est l'amour qu'ils ont pour la vie, et nous en profitons nous autres par notre pompeux galimatia, et savons prendre nos avantages de cette vénération que la peur de mourir leur donne pour notre métier. C'est troublant, n'est-ce pas ? Et pour le moins sulfureux. Car si c'est bien de religion dont Molière parle et non de médecine, c'est une satire au vitriol. L'amour médecin n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. L'œuvre de Molière est littéralement envahie par le thème de la médecine à partir de la fin des années 1660. L'amour médecin, le médecin malgré lui, le malade imaginaire. Selon Georges Forestier, grand spécialiste de l'histoire du théâtre, cette omniprésence de la médecine chez Molière n'est pas due au fait, comme on a coutume de le croire, que Molière était lui-même malade de la tuberculose. Non, la véritable raison de cette irruption du thème de la médecine dans le théâtre de Molière, c'est l'autocensure. La médecine est un nom de code, un nom de code qui n'est pas un secret pour les initiés et qui sert à faire la satire discrète d'un thème dont ils ne pouvaient plus se moquer sans risquer de s'attirer les foudres de la censure, la religion et les mœurs catholiques. Pour comprendre, il convient de revenir près de deux décennies en arrière. Si le règne de Louis XIII, sous l'impulsion de Richelieu, avait réhabilité le théâtre et le statut de comédien dans la société française, les choses changent quelque peu à sa mort en 1643. Le métier de comédien fait de nouveau l'objet d'une forme d'ostracisme religieux qui se traduit par une censure virtuelle. Molière en fait une première fois les frais dans une querelle en 1662 avec l'école des femmes. Une pièce qui, malgré son succès immédiat, on dit que le roi et la famille royale en rient à se tenir les côtes, fait également scandale. Notez bien, elle ne fait scandale auprès de la noblesse, qui est plutôt de genre à goûter l'humour moqueur de Molière à l'égard des bourgeois rétrogrades. Elle ulcère un public plus traditionnaliste. Pourquoi ? D'abord parce que certains perçoivent dans les recommandations que fait Arnolphe à Agnès dans l'acte 3, scène 2, une parodie de sermon qui se moque de la religion. Mais aussi, peut-être surtout à cause d'une scène que l'on juge obscène, presque pornographique. La fameuse scène du acte 2, scène 5.
Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses ?
Pourtant, il me prenait les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là.
Ne vous a-t-il point pris Agnès quelque autre chose ?
Et il m'a...
Quoi ?
La voilà donc cette fameuse équivoque du le suspendu dont tout le monde a bien compris la connotation. Ce scandale, s'il ne débouche sur aucune censure, va ouvrir la voie à une autre affaire plus sérieuse, celle-là. Cette affaire, c'est la célèbre affaire Tartuffe, qui a lieu 2 ans plus tard et qui va durer 5 ans. On connaît tous le synopsis original de cette pièce emblématique de Molière. Orgon, bourgeois fortuné et charitable, recueille chez lui un certain Tartuffe, soi-disant homme d'église. Mais ce séducteur invétéré n'est qu'un imposteur qui n'en veut qu'à la fortune de son hôte, lequel se laisse piteusement tromper et abuser. N'est-ce pas ? Eh bien non. Ce n'est pas l'histoire qu'a écrite Molière en 1664. Il s'agit là de la version qui nous est parvenue, résultat d'un travail d'autocensure de la part de Molière. Et oui, le Tartuffe que l'on connaît n'est pas le Tartuffe original. Le 12 mai 1664, lorsque la toute première représentation de Tartuffe est donnée à Versailles à l'occasion des fêtes des plaisirs de l'île enchantée, la pièce fait grand bruit. D'abord parce qu'elle rencontre un vif succès auprès du public de la cour, mais aussi parce qu'elle sera interdite dès le lendemain et par le roi Louis XIV lui-même sous la pression de l'Église, semble-t-il. Alors pourquoi est-elle interdite ? Tout simplement parce que dans sa première version, l'histoire de Tartuffe était bien différente de celle que l'on connaît. Elle n'était constituée que de 3 actes, alors que la version que nous avons aujourd'hui en comprend 5. Ce n'est pas un hasard si c'est la plus longue des pièces de Molière. Si elle est aussi longue, c'est parce qu'il l'a réécrite et qu'en la réécrivant, il a largement compliqué l'intrigue pour la rendre plus acceptable. Au départ, la pièce était bien plus scandaleuse. Dans la première version, Tartuffe n'est pas un imposteur qui se fait passer pour un homme d'église. Non, c'est un directeur de conscience. La nuance vous paraît peut-être subtile, mais oui, elle fait toute la différence. Oui, car Tartuffe y est un véritable dévot. Un dévot qui, bien qu'il soit censé avoir une conduite exemplaire, tombe bien malgré lui dans les affres de l'amour charnel. D'où le fameux « couvrez ce sein que je ne saurais voir ». Comprenez, Molière y fait une critique beaucoup plus explicite de la vie dévote. Et l'Église catholique, sans surprise, n'apprécie guère cette attaque. Alors que fait Molière ? Une pirouette, pour ainsi dire. Il rédige un placé au roi, c'est-à-dire une requête, dans laquelle il se donne l'image d'un auteur moral, un auteur qui ne fait pas la satire de l'Église, mais bien de l'hypocrisie de ceux qui se font passer pour des dévots. Et dans la foulée, il réécrit plusieurs fois sa pièce. Sa stratégie finira par payer. Après quelques péripéties, la pièce sera réautorisée par le roi dans sa nouvelle version, le 4 février 1669. Il existe un autre exemple célèbre d'œuvre de Molière mutilée par la censure. C'est Don Juan. Par une censure posthume d'abord, avec le retrait de plusieurs passages dans la version qui fut publiée en 1682, mais aussi, on le sait moins, par un peu d'auto-censure de la part de Molière lui-même. En effet, dès la deuxième représentation qu'il fait de la pièce en 1665, soit seulement un an après que l'affaire Tartuffe n'éclate, notez bien, Molière est contraint de faire un ajustement à son texte d'origine. Il supprime quelques lignes de la scène du pauvre, acte 3, scène 2, scène provocatrice s'il en est, puisque Don Juan y cherche à démontrer la totale indifférence de Dieu envers les démunis. Certains historiens, mais ils ne sont pas tous d'accord, pensent également que si Molière n'a joué sa version de Don Juan que quelques semaines en 1665, puis plus jamais, c'est également pour cause d'autocensure, à cause de la virulence des critiques. Vrai ou faux ? Toujours est-il que Molière se montre plus prudent à partir de l'affaire Tartuffe. Et c'est d'ailleurs dès cette époque, comme par hasard, que l'on voit apparaître ce fameux thème de la médecine dans son œuvre. Thème, semble-t-il, intimement associé dans l'esprit de Molière à celui de la religion, et dont il se serait servi pour continuer sans en avoir l'air à faire la satire de l'Église. Alors, s'auto-censurer, oui, mais se taire, jamais.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Molière, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un comédien qui a tout joué et a surtout joué 12 de ses pièces. Bonjour Francis Huster.
Bonjour.
Bonjour Francis Huster, en grand passionné de Molière, vous signez le dictionnaire amoureux de Molière qui vient tout juste de paraître chez Plon. Molière tient évidemment une grande place dans votre carrière théâtrale. Vous avez mis en scène 5 de ses pièces, en avez joué 12. Mathieu le disait, dont l'avare sur la scène de la Comédie Française, ça nous ramène à 1973. Vous interprétez le rôle de Cléante et donner la réplique à Isabelle Adjani. On a un extrait et on va pas se priver de l'écouter.
C'est vrai que mon père, madame, ne peut pas faire un plus beau choix que se mettre une sensible joie que l'honneur de vous voir. Mais avec tout cela, je ne vous assurerai point que je me réjouis du destin vous pourriez être de devenir ma belle-mère. Le compliment, je vous l'avoue, est trop difficile pour moi. C'est un titre, s'il vous plaît, que je ne vous souhaite point. Ce discours paraîtra brutal aux yeux de quelques-uns, mais je suis assuré que vous serez personne à le prendre comme il faudra. Que c'est un mariage, madame, où vous vous imaginez bien que je dois avoir de la répugnance. Que vous n'ignorez pas sa chance que je suis, comme il choque mes intérêts. Et vous voulez bien enfin que je vous dise, avec la permission de mon père, que si les choses dépendaient de moi, cette hymne ne serait point.
Quelle relation au fond vous entretenez avec Molière ?
Une relation privilégiée, parce que j'ai eu la chance, justement, dans les années 1973, de rencontrer tous ceux qui ont été, on peut le dire, les plus grands serviteurs de Molière. Moi, dans tout ça, je suis tombé amoureux de Molière parce qu'en l'interprétant, j'ai compris que c'était un auteur pour les femmes. J'insiste là-dessus. Mm-hmm. Ça veut dire qu'au lieu d'être, comme dans toutes les tragédies, complètement des éponges sensuelles et amoureuses dans les mains des hommes, chez Molière, elles se sont révoltées. Et j'ai considéré. C'est pour ça que dans le dictionnaire amoureux, il y a tous les personnages, toutes les pièces, toute son œuvre et toute sa biographie. Ce qu'il y a dans Molière, c'est ce qui est dans notre sang. Mais je pèse mes mots. Ce sont pas des grands mots. C'est-à-dire que nous sommes tous des Molières, des enfants de Molière. C'est lui qui, comme Coluche, a osé, à son époque, et il y a risqué sa vie, la preuve, il a osé affronter tous les pouvoirs.
Bien sûr.
Stéphane a raconté que Molière a utilisé la thématique de la médecine pour continuer à s'en prendre à la religion sans en avoir l'air. C'était une forme d'autocensure habile pour continuer à dire ce qu'il voulait finalement.
C'était un coup de génie, puisque je vous le dis tout de suite, réfléchissons une seconde, il passe de la médecine du corps à la médecine de l'âme. Et ça, c'est un coup de génie. C'est-à-dire que tout le monde se sent concerné. Il a inventé l'art de l'acteur. Mais je plaisante pas. C'est-à-dire que, alors que les acteurs étaient épouvantables en France, à cause de cette censure, à cause de cet opéra parlé qu'était le théâtre, lui, il a inventé le secret de notre vie. Stéphane, le silence. Le regard et le silence.
Il n'y avait pas ça avant.
Mais pas du tout. Ils étaient obligés d'aller à toute vitesse à cause justement des 20 minutes de bougie. Comme en plus la salle, il fallait vraiment gueuler pour se faire entendre. Et puis c'était, on venait voir un opéra sans musique. Alors que Molière, comme un génie, a compris que le visage était comme un jardin de l'âme qui pouvait exprimer tout, et que l'acteur, c'est là où je voudrais le dire à tous les jeunes, à tous les professeurs qui nous écoutent, et tous ceux qui sont les amoureux du théâtre, c'est que tout d'un coup, il a compris que l'acteur, pardon Stéphane, était lui aussi un créateur. C'est-à-dire que c'est pas un pinceau l'acteur, c'est le pinceau qui décide de peindre comme il l'entend. Ça veut dire que tu as le texte qui est donc le personnage, c'est écrit, mais... sur scène, il n'est pas là le personnage, ça devient le rôle, ça devient le tableau d'âme de l'acteur. Donc ça veut dire que il invente le métier d'acteur qui est de donner de son âme comme si c'était une couleur d'âme et d'en faire un rôle. Et si je me bats depuis des années pour que Molière entre au Panthéon, c'est le comédien qui doit rentrer au Panthéon. Donc ça veut dire que c'est l'œuvre, car c'est le comédien qui a fait de cette œuvre une légende. Et le jour où les portes de la gloire, si Emmanuel Macron, le président de la République, y agrée, si les portes de la gloire s'ouvrent pour Molière au Panthéon, avec lui, Louis Jouvet, Jean Villard, Jean-Louis Barrault, Gabin, Bourville, tout le monde rentrera avec lui. C'est la seule façon d'enfin rendre à ce métier le respect qu'il mérite.
Alors ça, c'est un combat, mais en même temps, Molière, lui-même, en tant qu'auteur, l'auteur Molière, est, dans votre dictionnaire amoureux de Molière, vous expliquez que Molière osait défier non pas seulement Louis XIV, mais la religion, les médecins, la finance, les bourgeois, la cour, la justice. Bon, par prudence, évidemment, il ne s'attaquait pas au roi, qui était son protecteur, évidemment, mais il s'attaquait à tout le monde de façon détournée. Et c'était un politique, au fond, Molière.
Mais c'était complètement le j'accuse de sa génération, de Zola. Et nous sommes dans le studio Coluche. Alors, je vais vous expliquer. En fait, il faut comprendre que nous devons tout à Louis XIV. Louis XIV voit la troupe de son frère, de Monsieur Frère du Roi. À ce moment-là, Molière, sa troupe s'appelle Monsieur Frère du Roi. Et Monsieur veut faire une représentation devant le roi. Et le roi, en première partie, c'est une honte. Molière joue trop moderne. C'est Nicomède. Il s'en va. Son frère le rattrape. Parce qu'il y a une deuxième partie qui est la comédie. Et pendant que Molière et sa troupe jouent, il a même pas 30 ans, Molière, le roi se dit, j'ai trouvé mon gant. Ce qui veut dire qu'après la représentation, il dit à ce jeune homme, écoute-moi bien, je vais te donner un théâtre, le théâtre de Richelieu, qui est mort, qui me l'a laissé en héritage, le Palais Cardinal, qui se trouve à l'intérieur du Louvre. Ce théâtre, il est tien, comme il est complètement en ruine et tout, tu vas aller d'abord chez les Italiens, jouer avec Charamouche et les autres, et puis quand ça sera prêt, tu t'installeras là. Et écoute-moi bien, tu diras exactement sur scène, sur les sujets que je t'imposerai, ce que moi, le roi Louis XIV, je ne peux pas dire. Donc ça veut dire que Molière était le gant de Louis XIV. Et la preuve incroyable que pendant justement tout le cursus scolaire, on n'est pas mis le doigt dessus, mais nous on le savait, les comédiens, c'est tout simplement que sa troupe s'appelle la troupe du roi. Donc ce qui veut dire qu'à partir du moment où elle portait ce patronyme de troupe du roi, il était impossible de s'attaquer à Molière. Alors bien évidemment... quand on le croisait, quand on le comptait, lui tapait dessus, on essayait de le... Il a été, par exemple, on a pris son visage, tout d'un coup, un noble a pris son visage, l'a frotté contre ses boutons complètement en sang, le visage, le roi a puni l'homme en question, mais il était impossible de s'attaquer à lui. Et la preuve
mémorable de Louis XIV, là où il a transformé totalement non seulement son siècle, mais tous ceux qui suivent, pour le bien comme pour le mal, c'est que le pouvoir...
Oui, mais par exemple, pour autant, le roi interdit le Tartuffe.
Ce n'est pas le roi qui interdit le Tartuffe, c'est la cour, et l'archevêque de Paris étant absent, Lamoignon qu'il remplace, donc affirme l'interdiction, et Molière envoie la Torrière et la Grange jusqu'en Lorraine, où le roi fait la guerre, et le roi les accueille avec un très grand sourire, car il revient à Paris, et quand il revient à Paris, il dit « Je suis le roi, Tartuffe se jouera ». Donc, il impose la volonté royale au pouvoir religieux. Mmh. C'est un tournant incroyable dans l'histoire de France. Mmh.
Un mot, Francis, des pièces de commande, parce que Louis XIV, il commandait directement des pièces.
Oui.
Avec le thème, tout ça, comment ça se passait? Il disait, Poquelin, enfin Molière, je sais pas comment il l'appelait, je veux une pièce là-dessus.
Oui, mais bien évidemment, c'était des entretiens privés. Molière, d'ailleurs, venait lui lire à lui-même le roi ce qu'il était en train il s'était ressenti un, parce qu'il avait deux personnes qui comptaient pour lui pour sa première lecture, ce ne sont pas ses comédiens, le roi d'un côté et sa servante de l'autre. Et un jour, il a voulu la piéger, et en fait, il lui lisait une pièce qui n'était pas de lui, Oh non, ça c'est pas de vous. Non. Et le problème de Louis XIV, c'est que il a voulu offrir à ses maîtresses. Bien sûr, il y avait la reine toujours à côté de lui, mais il y avait sa nouvelle maîtresse. Alors on lui offrait une soirée, et c'était des soirées magnifiques, que ce soit au Louvre, à Saint-Germain, à Versailles, et les plaisirs de l'île enchantée, où le roi d'ailleurs lui-même apparaissait quelquefois. Et des échecs complets pour Molière. Ça, je veux dire, ça, il a absolument raté la plupart de jusqu'à Psyché avec Quinault, qui était le célébrissime auteur royal de la cour et non pas du roi, avec Corneille, on écrit Psyché et puis il s'en fout Molière, il a tout raté. Et puis comme dans toute biographie, et puis on va vivre ça aussi dans les mois qui viennent, le traître, le Yagot, le Narcisse, celui qui trahit, et celui qui trahit est celui qui est le plus proche. Donc là, il s'agit de Jean-Baptiste Lully, avec lequel Molière a inventé la comédie musicale, et qui va le trahir. Il va lui voler son théâtre, qui va devenir l'Académie Royale de Musique, et le roi va éjecter Molière.
En tout cas, on est pris par le récit. Merci Francis Huster. Je rappelle que vous venez de signer un magistral, d'avoir deux livres sur Molière. Le magistral Dictionnaire amoureux de Molière aux éditions Plon et Poquelin contre Molière aux éditions Armand Collin. On croit entendre, quand on vous lit, on croit vous entendre, ce qui quand même, on a deux pour prix d'un.
Merci beaucoup Francis.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Tous les jours des 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter, elle. Elle nous raconte des histoires qui en ont fait des histoires. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez Arletty, sa rencontre qui a fait jaser avec un officier nazi.
Oui, on reste dans l'univers des comédiens, en effet. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Arletty, de son vrai nom Léonie Battia, qui est une fille du peuple, elle est née au 33 rue de Paris à Courbevoie le 15 mai 1898. Son père était ajusteur et sa mère blanchisseuse. Eh bien, à la veille de la guerre, elle est l'actrice la plus populaire du cinéma français. C'est une comédienne tellement attachante, tellement française, Arletty. Vous avez raison, Stéphane, un mot, vous disiez atmosphère, c'est le mot qui pourrait la résumer, hein, et qui l'a fait rentrer dans la légende du cinéma, dans le rôle de Raymonde, une prostituée à l'accent parigot dans Hôtel du Nord. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Mais le mot scandale lui conviendrait encore mieux. Scandale d'abord de sa bisexualité. Et oui, oui, je vous vois rouler des yeux. Oui, oui. Ouais. Sa bisexualité bien connue dans le monde du cinéma, mais ignorée du grand public. Bisexualité active. Les femmes, c'était des petits accidents. Il y en a eu qu'une, du reste, disait Arletty. De petits accidents, peut-être. Mais enfin, d'après les renseignements généraux, la liste de ses maîtresses était longue et avait pour caractéristique de n'être constituée que de dames de la haute. D'ailleurs, dans le milieu lesbien, Arletty, on la surnomme le Duc. Mais quand elle dit « il n'y en a eu qu'une du reste », elle pense à une certaine Antoinette d'Harcourt qu'elle a rencontrée chez Elena Rubinstein et qu'elle surnomme comme ses jolies fleurs de lit. Fleur de lit, la seule femme qui semble avoir vraiment compté pour elle. Fleur de lit était folle amoureuse d'Arletty et il y avait toute une armada de lesbiennes qui gravitaient autour de ces dames. Et voilà ce qui explique pourquoi d'ailleurs Arletty fut là. Première comédienne à incarner une homosexuelle dans un long métrage, La Garçonne, où elle incarne une certaine Niquette qui porte le pantalon, fume de l'opium et entretient sa maîtresse, une certaine Monique, jouée par Marie Belle. Voilà, ça c'est vraiment un film qui a fait scandale, hein, on s'imagine. Mais un scandale encore plus grand reste à venir, c'est qu'Arletty fréquente le milieu de la collaboration politique et artistique pendant l'occupation et le 11 mars 1941 au cours d'un dîner chez sa grande amie Josée Chambrin est Josée Chambrin,
la
Mathieu
fille de
la fille
d'ailleurs.
Unique de Pierre Laval. Bon voilà, et bien Arletty chez sa copine de Chambrin rencontre un officiellement de 10 ans son cadet, Hans-Jürgen Söhring, cultivé francophile, il a fait des études en France, fils d'un ancien attaché culturel allemand et surtout beau comme un dieu. Alors, à un petit détail près, cependant, il a des oreilles en pointe et ça lui vaudra d'être surnommé Faune par Arletty. Et quand elle lui écrit des lettres, elle signe Biche. Hein. Donc, c'est Faune et Biche, comme c'est joli. Hein. Faune, c'est pas exactement le gendre idéal. Hein. Il est officier dans la Luftwaffe, il est ami avec Göring et membre du parti nazi depuis 1938. Bon, mais Arletty s'en fout. Sa popularité est alors au firmament et elle est tellement amoureuse. Alors, 3 ans durant, les tourtereaux follement épris s'affichent au grand jour, sans complexe. Reçoivent Kate Conti, Colette, Sacha Guitry, Marie Laurencin, Coco Chanel et son officier allemand. On dit Noritz ou à la Tour d'Argent. La Tour d'Argent, c'est leur restaurant préféré. Ils vont à l'opéra, ils skient à Megève, ils fréquentent les boîtes à la mode du gay Paris occupé. Dans le livre qu'elle va écrire des années après sa mort, quand Arletty parle de Faune, de Söhring, elle le désigne simplement par un petit S. Et de cette idylle, il ne reste une seule et unique photo qui les représente tous les deux en train de faire du cheval en forêt. Bon, évidemment, au lendemain de la guerre, la collaboration horizontale, c'est plutôt mal vu. C'est sévèrement puni, hein. Des femmes sont tondues en public, d'autres sont lynchées. Et pour la majorité des Français, Arletty, c'est quand même celle qui a couché avec un Allemand. De ce point de vue-là, elle va s'en tirer pas si mal parce qu'elle est assignée à résidence pendant un an et demi, à la Houssaye-en-Brie. Et elle est privée de plateau. Donc pour elle, sur le plan de sa carrière, c'est évidemment grave, c'est important, mais enfin, par rapport à des femmes qui elles, n'étaient rien, n'étaient pas, ne jouissaient pas de sa notoriété, elle s'en est pas si mal tirée. Lors de la sortie du film Les Enfants du Paradis, dans lequel elle interprète l'inoubliable Garance, elle n'est pas invitée à la première et son nom ne figure ni sur les affiches, ni sur les programmes. Donc voilà sa punition. À sa décharge, contrairement à bien d'autres acteurs et actrices, elle n'a jamais tourné pour la Continental, cette société de production franco-allemande. Elle a refusé de tourner en Allemagne. Elle a refusé d'y aller quand ça commençait à sentir le roussi, déclarant « J'ai préféré Paris, Paris, à Baden, Baden ». Bon, après la guerre quand même, elle va retrouver Söhring, elle le retrouve à Noël 46, il parle de mariage, enfin avec le temps, la séparation, les liens sont distendus, Arletty, elle n'est plus employée au cinéma et lui, il ne trouvera jamais de travail en France, où ce mariage ferait scandale. Et puis, Söhring a rencontré une charmante jeune femme et on lui propose un poste consulaire à l'étranger, donc ils se rencontreront encore, mais le grand amour, c'est terminé. Söhring est nommé ambassadeur de RFA au Congo en 54. Et au cours d'une baignade dans le fleuve Congo, il se noie.
Oh non.
Et on pense qu'Hans-Söhring a probablement été dévoré par un crocodile. Mmh. Ce qu'on ne saura jamais vu que le corps n'a pas été retrouvé. Voilà, Arletty est en état de choc pendant
ça
des semaines.
Ça accrédite la thèse du crocodile.
Et la veuve de Söhring viendra quand même à Paris lui rendre les lettres de son amant. Et ces lettres ont été publiées en 2008. Alors évidemment, on ne saurait conclure sans citer la saillie légendaire dont Arletty niait d'ailleurs être l'auteur, mais qui résumait bien son histoire. « Je ne suis pas très résistante. Et si mon cœur est français, mon cul, lui, est international.
» Merci Clémentine, merci beaucoup.
Vous restez avec nous Clémentine. Y aura-t-il des nazis dans le quiz? Je crois que oui, il y aura des nazis. Rassurez-vous, à tout de suite pour Bern to be alive.
Beaucoup de nazis.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. historiquement vôtre.
Dans les combats qu'il oppose à d'autres, comme la pro-éolienne Barbara Pompili ou Meghan et Harry, Clémentine incite toujours Stéphane à faire preuve d'intransigeance.
Allez-y Stéphane, mordis l'œil.
Doucement, ne l'excitez pas, c'est le moment de jouer à Burn to be Alive. Stéphane, il y a beaucoup de rues Sadi Carnot en France. C'est parce qu'il y a eu deux Sadi Carnot. Nicolas Léonard Sadi Carnot, le physicien, et Marie-François Sadi Carnot, le président de la République. Mais qui est né en premier ? Le physicien ou le président de la République ?
J'ai une chance sur deux de me tromper.
Jusque-là, le calcul est bon.
Je crois que le président est plus ancien.
Donc vous dites que le président est né en premier ?
Oui.
Vous avez...
J'aurais dit le contraire. Moi,
c'est
mais
une erreur. Ouais. Bah, c'est facile de le dire après.
Non, non, hein, mais parce que le nom de Sadi Carnot m'est familier avant le président Sadi Carnot. Mais alors que je ne connais absolument pas le physicien.
Moi, je connais le président, enfin.
Ouais.
Alors, le physicien, Nicolas Léonard, est mort en 1831. Il était spécialisé en thermodynamique et son neveu, Marie-François, est né 5 ans après. Il est mort assassiné en 1894.
Oui, bah c'est vache hein, comme
mais
question.
Mais
hein.
Quand on se pose comme un spécialiste de l'histoire, il faut être précis.
Bon. Vous le saviez,
question numéro 2, mais je le savais, évidemment. J'aurais dit 4 ans d'écart. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. L'armée rouge a pris en 1945 aux Allemands un blindé boule, appelé Kugelpanzer. C'est une boule blindée d'une tonne 8. C'était un engin de reconnaissance qui permettait de se balader dans une boule fermée. Vrai ou faux ? Après la grosse Bertha, la grosse boule.
Faux.
Vous avez perdu.
Vous avez perdu. La
grosse
boule.
Encore un prototype.
La grosse
boule existait.
Encore
un prototype dirigé par un pigeon, c'est ça ?
Avec un moteur... Avec un moteur qui devait la propulser à 8 km/h, c'est un prototype qui a été récupéré en Mandchourie par l'armée rouge avec un blindage de 5 mm d'épaisseur. Il n'existe qu'un seul exemplaire de ce blindé
boule
qu'on peut toujours voir aujourd'hui au musée des blindés à Kubinka, à 60 km de Moscou.
On va y aller. Mais si, je vais y aller. Bon, voulez-vous que je connaisse ce prototype ? Bon, ça manque à ma culture de tankiste.
Le blindé boule. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Quand Léon Tolstoï est mort, on a appris sa disparition plus de 15 jours après, car Staline est mort au même moment. Du coup, il ne fallait pas faire de l'ombre au petit père des peuples. Vrai ou faux ?
Bah, Tolstoï est mort bien avant Staline.
Mais oui, c'est que je comprends pas.
Qu'est-ce que c'est que cette question ?
Non, je crois que Tolstoï était mort avant Staline.
Il était mort avant ?
Oui.
Donc c'est faux.
Donc c'est faux. Attendez,
c'est faux.
Oui.
Vous avez...
Et c'est une bonne réponse. C'était un petit piège pour voir si vous suiviez. Oui, Tolstoï mort bien avant. Et ce qui est arrivé, cette affaire est arrivée avec Prokofiev. Vous n'aviez pas entendu parler de ça ?
Oui,
1953.
Bah, j'étais pas né.
Il est mort.
Pas une idée.
Il est mort 1 heure avant Staline. Les funérailles ont eu lieu en tout petit comité. La Pravda devait porter toute son attention sur Staline. La nouvelle a été officielle 6 jours après. Tolstoï, lui, est mort en 1945. Question numéro 4, Clémentine. Thomas Linley était un compositeur britannique du XVIIIe siècle. Il est surtout connu pour avoir composé un seul concerto pour violon, et ce, à 65 ans. Vrai ou faux ? Thomas Linley. Vous n'avez jamais entendu parler de Thomas Linley ?
Je connais David Linley.
C'est pas lui. C'est son petit frère.
Non, mais attendez, écoutez, Thomas, vous me demandez si j'ai entendu parler de Thomas Linley comme musicien alors qu'il n'a composé qu'un concerto à 65 ans ?
Ça, c'est ma question.
Non, mais oui. Alors, est-ce que c'est vrai ?
Est-ce qu'il est connu pour avoir composé un seul concerto pour violon à 65 ans ?
On va découvrir.
Non,
qu'en
c'est
fait,
faux.
Il était,
c'est
il
faux.
Était
en fait, c'est un compositeur prodigieux qui il faisait les perruques de la reine Elisabeth première. C'était un grand couturier de la Renaissance. Je dis non, c'est faux.
Elle dit faux.
Vous avez.
Et j'aime beaucoup cette réponse, puisqu'elle nous donne une égalité. C'est même tout le contraire. Thomas Linley a existé. Il est mort noyé à 22 ans. Il avait eu le temps néanmoins de rencontrer Mozart, avec qui il s'était très bien entendu. Un malheur n'arrive jamais seul. 30 ans après sa mort, une grande partie de son œuvre est détruite dans un incendie. Mozart avait écrit qu'il le considérait comme un génie. Figurez-vous.
Oh, quel dommage.
Tapez sur Deezer Thomas Linley pour écouter cette musique. Question numéro 5. Pourquoi vous regardez comme ça, Stéphane ? Vous pensez qu'il n'est pas sur Deezer ? Ou sur
se
Spotify,
dit,
ou
où,
sur les plateformes.
Je pense été
on, va, ça. On va avoir du mal sur Deezer. Mais
vous,
bon,
vous pensez que ça n'a pas été numérisé ? Vous pensez que ça n'a pas été joué même ?
On verra, on verra.
Menons l'enquête.
Je l'ai géré après l'émission.
Question, oui, on a le temps. Question numéro 5, elle va vous départager. 11 février 1992, pardon. 11 février 1990, après 27 ans, 6 mois et 6 jours, Nelson Mandela est enfin libre. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est plus que jamais une terre de contraste. Si vous allez à l'hôtel de luxe Emoya à Bloemfontein, au centre du pays, que peut-on vous proposer ? 3 propositions. 1. Une nuit comme si vous étiez dans un bidonville. Une nuit dans la cellule reconstituée à l'identique de Nelson Mandela. Ou une nuit à Sibonanga.
2.
Vous avez dit deux en même temps et il faudrait la photo finish qui ne servira à rien puisque ce n'est pas la bonne réponse.
Trois.
Oh oui, Stéphane, il est allé dans cet hôtel de luxe, effectivement.
C'est pas juste parce que moi, j'y suis pas allé dans l'hôtel de luxe.
Des 5 étoiles. Et Moya, Bloemfontein, au centre du pays, une nuit spéciale bidonville pour 60 euros. Au programme, toilette à l'extérieur, cuisine avec juste 2 plaques chauffantes. Rassurez-vous, il y a quand même le wifi et le chauffage au sol, ce qui est assez rare dans les bidonvilles.
Enfin,
c'est un faux bidonville sans le danger des townships, c'est pour vous faire des petits frissons comme ça.
C'est lamentable,
c'est dégueulasse, ça coûte 61 euros. Voilà, soit la moitié du SMIC d'une femme de chambre noire dans une zone rurale d'Afrique du Sud. C'est absolument dégueulasse. On ne salue pas cet hôtel et on ne veut pas qu'il nous envoie des chambres gratuites.
Faut déjà aller à Bloemfontein.
Oui, déjà, en ce moment, on ne voyage pas beaucoup. Victoire de Stéphane Bern.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter. En compagnie de ce garçon dont j'aimerais vous dire qu'il est formidable, à la fois érudit, vif, gentil, passionné et passionnant.
Bah dites-le alors.
Non, Mathieu, vous savez, j'ai trop de pudeur. Comme nos personnages, je suis obligé de m'auto-censurer. Après Molière, je vous raconte l'incroyable histoire de Julien Green, un auteur respectable et respecté, premier étranger à être élu à l'Académie française, qui a publié son journal intime en prenant soin de censurer certains passages, des passages très olé-olé.
Eh bien moi, Stéphane, s'il y a bien quelqu'un que vous n'aurez jamais imaginé capable de s'auto-censurer, c'est le penseur Yuval Noah Harari, vous savez, l'auteur de Sapiens et Homo Deus. Eh bien, pour que son livre puisse sortir aussi en Russie, il a accepté de le censurer.
L'ordure.
Votre réaction est peut-être un peu excessive, Stéphane, mais c'est vrai que ça pose question quand même.
Et poser des questions, c'est bien, mais y apporter des réponses, c'est mieux. C'est pourquoi Dieu a inventé nos chroniqueurs.
Oh, on peut le remercier.
David Castel-Lopez, vous nous racontez les origines
des tigres tamouls. Alors, c'est un petit peu étrange comme sujet.
Oui.
Je vais essayer de vous intéresser à l'histoire du Sri Lanka.
J'adore le Sri Lanka.
En 4 minutes. Voilà.
Alors, rappelez-moi, le concept de son truc, c'était pas
les inventions
voilà, qui font notre quotidien.
Ce n'est jamais moi qui ai prononcé cette phrase.
En quoi les tigres tamouls font partie de notre quotidien.
Donc moi qui veux faire l'histoire des recettes, je peux faire demain, je sais pas, les coffres en bois, quoi.
C'est
autant de rapports entre un coffre en bois et une recette de cuisine.
Cessons de nous engueuler, les amis. Olivier Poussel, lui, il respecte son sujet.
Oui. Voilà.
Bah moi, je vais vous faire
qu'est-ce qu'ils ont disparu
des donuts et je vous apporte des donuts. Pourquoi il y a un trou au milieu, d'ailleurs? Ça, c'est une question fondamentale.
Il y a un trou au milieu.
Je vous réconcilierai tous avec la lutte finale.
Ah, la lutte finale, ce quiz qui nous oppose en fin d'émission. Celui qui gagnera aujourd'hui remportera son poids en donuts, soit 52 kilos pour David, 86 pour moi et 123 pour Pouls. Remise des lots vers 6h-10. En attendant, Stéphane, qui ne se censure jamais, nous raconte l'histoire de quelqu'un qui n'a pas eu son courage. Il est né avec le 20e siècle et il était écrivain dès les années 20, mais il a pris soin de gommer une grande partie de ses écrits les plus personnels. Presque 100 ans après son premier livre, Le Monde découvrait le premier tome de la version intégrale du journal intime de ce fervent catholique, où le récit cru est détaillé de ses aventures homosexuelles. Stéphane Bern nous raconte Julien Green, l'écrivain qui s'est auto-censuré. Attention, le texte qui va suivre n'est pas à mettre entre toutes les oreilles. Vous voilà prévenu, mais nous avons choisi de ne pas nous auto-censurer.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
C'est même assez difficile de le dire.
Oui, mais vous allez y arriver, Stéphane.
Allez, je me lance. Samedi... Ça me défrise un peu, je dois vous avouer. Samedi 24 octobre 1931. Je vais voir Benga ce soir. Espérons qu'il me sucera bien. Sa bouche est des plus adroites. J'en conviens. Non. Mais c'est par son trou du cul que je voudrais bien me faire sucer la pine. Ce produit...
Oh Stéphane, vous écrivez bien. Allez, vas-y Stéphane.
Ce prodigieux derrière doit être agréable à percer. Puis...
Puis un autre jour. Hier soir, un jeune marin fort élégant met la main à ma braguette. Petite couille et petite pine, mais jolie. Il a pris ma pine pour la mettre entre ses fesses. Il sent ma queue pénétrer son joli cul rose. Vous ne rêvez pas, non. Ces lignes ont bien été écrites par Julien Green. Oui, Julien Green, l'auteur catholique emblématique du XXe siècle. Modèle de spiritualité et de chasteté, connu pour être le plus français des écrivains américains et le premier étranger élu à l'Académie française. L'un des rares publié à la Pléiade de son vivant. Un écrivain prolifique, auteur notamment du Léviathan, de Moïra et d'Adrienne Mesura. Auteur surtout d'un journal intime, son œuvre la plus monumentale, publiée en 19 volumes et couvrant presque tout le XXe siècle, de 1919 à 1998, date de sa mort. Mais coup de théâtre. En 2019, une autre version de l'œuvre est publiée. Le premier tome d'une version intégrale de son journal. Oui, intégrale. Car voyez-vous, des décennies durant, nous n'avons eu du journal intime de Julien Green, sans le savoir, qu'un aperçu pour le moins parcellaire. Ce journal, publié par son auteur depuis 1938, avait été en partie caviardé par ses soins, et pas qu'un peu. Plus de la moitié de l'œuvre, soit environ 60%, manquait à l'appel. Censuré par Julien Green lui-même, jugeant impubliable de son vivant cette confession qui rétablissait la vérité. Ce sont ses mots, et où l'on saurait tout de lui. Ce tout auquel il fait référence, c'est surtout cette grande part de lui régie par une sexualité envahissante. On le savait certes homosexuel, mais on ignorait à quel point, comme le formule adroitement un article du quotidien Libération. Sa vie durant, Julien Green avait toujours été discret au sujet de son homosexualité, comme en témoigne Bernard Pivot qui s'était entretenu avec l'auteur lors d'une émission d'Apostrophe en mai 1983 et qui disait qu'il avait été d'une grande prudence pour évoquer son homosexualité. Il n'aimait pas le mot et ne l'employait guère. Le vieux chanoine à la voix douce, aux gestes onctueux, décourageait par sa piété les questions indiscrètes, les rendant déplacées. Ainsi, on découvre dans ce journal intégral un Julien Green beaucoup plus complexe que le laissait entrevoir sa biographie telle que nous la connaissions avant 2019, c'est-à-dire celle d'un Américain exemplaire né avec le siècle en 1900 dans une famille aisée du 16e arrondissement de Paris, d'un jeune homme qui perd sa mère à l'âge de 14 ans, une mère protestante et très pieuse, un jeune homme qui décide de se convertir 2 ans plus tard au catholicisme, qui nourrit des projets de prêtrise, qui sera pendant la Première Guerre mondiale infirmier sur le front. Puis qui, rendu à la vie civile, part faire ses études aux États-Unis avant de revenir en France à l'âge de 22 ans. Ce sont ces années-là que nous laissons voir sous un jour nouveau le premier tome de son journal intégral. Ces années où il côtoie le milieu littéraire parisien, où il fréquente des personnalités comme les philosophes Jacques et Raïssa Maritain, François Mauriac, André Gide, Jean Cocteau et tant d'autres. On y découvre un jeune homme qui a perdu la foi et qui donne libre cours à une sexualité totalement débridée. Dans les passages décensurés, il décrit avec force détail ses aventures avec des centaines d'hommes inconnus qu'il suit dans la rue ou qu'il rencontre dans des pissotières, cadre privilégié de ses ébats. Les amants qu'il partage avec l'écrivain et journaliste Robert de Saint-Jean, l'amour de sa vie. Julien Green y décrit aussi sans phare le recours fréquent à des prostituées et des rencontres avec de jeunes garçons. Tout bien considéré, écrit-il, le 30 octobre 1929, un beau garçon de 15 ans me paraît plus désirable que tout au monde. Sans détour, Green évoque les dangers de l'homosexualité à l'époque, les coups reçus de la part d'hommes recevant mal ses avances, les agressions dans les latrines, mais aussi les maladies sexuellement transmissibles, la syphilis, l'herpès, la blénorragie dont il est lui-même la victime. Les deuxième et troisième tomes qui couvrent les années 1940 jusqu'en 1950 sont quelque peu différents. Julien Green y retrouve la foi. La guerre, écrira-t-il, aura été pour lui la grande secousse qui l'a réveillé. Elle a fourni à l'homme spirituel le tremblement de terre dont il avait besoin pour ressurgir. Mais une lutte acharnée continue de se jouer en lui, entre foi et désir. Et il reste, je le cite, très tourmenté par les désirs habituels, aux prises avec ce monstre qu'il n'apprivoise pas et qui ne souffre d'aucune privation. Finalement, ce que nous apprend cette version intégrale, Julien Green nous l'avait déjà suggéré dans la version non censurée. Le 25 mars 1900, il écrivait « Multiplicité, nous ne sommes pas simples, ni doubles, ni triples, nous sommes une infinité de gens. Reste néanmoins une interrogation. Aurait-il été d'accord pour que l'on publie ces lignes ?» Dans la préface du journal intégral, son héritier affirme que oui. Julien Green n'aurait exigé qu'une chose, qu'un délai de 50 ans se soit écoulé depuis les événements relatés. Et c'est désormais le cas, en effet.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour essayer de mieux comprendre Julien Green, nous sommes avec l'un des auteurs qui a travaillé à la publication du journal intégral de Julien Green. Bonjour Guillaume Faux.
Bonjour.
Bonjour Guillaume Faux, vous êtes conservateur à la BNF en charge du fonds Julien Green et vous travaillez à la publication du journal intégral de Julien Green. Un premier tome couvrant les années 1919 à 1940 est paru en 2019. Et là, ce sont deux nouveaux tomes qui paraissent de 1940 à 45 et de 46 à 50 dans la collection Bouquins. Plus de 50 ans se sont donc écoulés depuis l'écriture de ce journal. Tout peut donc être publié. C'est comme ça que Julien Green l'avait vraiment imaginé.
Je pense qu'il y a une chose qui n'a pas varié dans son esprit, dans son projet, c'est que ce manuscrit, ce journal devait être conservé et publié un jour. Là où il a hésité, là où il a bougé, c'est sur le délai effectivement de publication, 50 ans, 60 ans, moins longtemps, plus longtemps. Au fond, aujourd'hui, c'est l'ayant droit qui décide et effectivement, il a jugé qu'on pouvait rendre public l'intégralité de cette version inédite.
Alors, tout à l'heure, on rigolait un peu avec les passages un peu crus hein, que nous disait Stéphane, mais Julien Green a été un écrivain majeur des années 1920 à 70. Il est l'un des rares à avoir été publié, vous l'avez dit, dans la Pléiade de son vivant et il est le tout premier étranger élu à l'Académie française. Comment ça se fait que son nom soit pas plus connu de nos jours ?
Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un creux de la vague, hein, nettement, dans sa postérité. C'est assez courant, ça arrive après la mort d'un auteur, voilà, que ça starisse un petit peu et puis ça peut repartir. On espère aujourd'hui que cette nouvelle version du journal permette un nouvel éclairage sur l'œuvre. Il était surtout connu, vous l'avez dit, pour ses romans, d'une part, et pour son journal, qui effectivement couvre tout un siècle, toute une vie, et qu'on offrait, hein, c'était, on attendait la publication du journal de Julien Green régulièrement, année après année. Là, c'est autre chose, c'est un autre journal, un nouveau regard.
Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Julien Green, quelles sont ses œuvres majeures? C'est quoi son style, ses thèmes de prédilection? Qu'est-ce qui revient dans ses romans?
Alors, il a commencé comme un romancier et il a publié quelques romans qui comptent dans l'histoire de la littérature. Moira, Léviathan, Minuit. Une magnifique autobiographie qui est, je pense, un chef-d'œuvre du genre où il aborde la question de l'homosexualité de façon plus ouverte que dans le journal. Il l'a complètement censuré, vous l'avez dit, dans le journal. Dans l'autobiographie, il le dit, mais en des termes beaucoup plus acceptables et littérairement acceptables. Donc voilà, c'est surtout une œuvre de romancier et d'auteur de ce journal immense qui lui a procuré cette gloire. C'est un auteur qui a été très lu, très traduit aussi hein, dans toutes les langues à l'étranger.
Mais est-ce que dans son œuvre littéraire, qui était publiée donc de son vivant, il employait des mots aussi crus pour parler de la sexualité ?
Non, jamais. La sexualité, l'homosexualité sont là, mais en filigrane, et dans certains romans, pas dans tous. Celui, je pense, où c'est le plus évident, si on lit entre les lignes, c'est un roman, un court roman intitulé « Le malfaiteur ». Qui est un très joli, très 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 beau roman, mais ça ne va jamais au-delà du filigrane ou de l'allusion entre les lignes, en tout cas rien de comparable à ce qu'on trouve dans le journal et vous avez cité quelques échantillons.
J'ai cette curiosité, comment vous avez fait alors qu'il avait caviardé lui-même, c'est-à-dire j'imagine il avait raturé des passages entiers pour qu'on ne puisse pas lire ce qu'il avait écrit. Donc comment vous faites ce travail de reconstitution 50 ans après ?
En fait, il a appliqué plusieurs méthodes d'autocensure, si on peut dire, et plus ou moins radicales. Il a découpé d'abord tout simplement dans le manuscrit, dans ses cahiers, des passages entiers qui aujourd'hui sont perdus. Voilà, il a découpé les morceaux qu'il ne voulait pas transmettre à la postérité, donc ça on ne peut rien faire. En revanche, pour les passages qu'il a raturés en les biffant le plus soigneusement possible, on arrive par des méthodes assez simples hein, d'utilisation de certains types de lumière rasante sur les manuscrits et en glissant une lumière sous les feuillets à lire par transparence sous les ratures et c'est comme ça qu'on a pu restituer le texte.
Vous avez l'impression d'être un enquêteur, d'interdit, non d'aller.
Oui, bah d'abord il y a eu le moment de la découverte hein, de ce journal. On ne s'attendait pas, à vrai dire, à trouver un manuscrit dans cet état. Là et avec ce contenu-là. Et assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait là un enjeu éditorial important.
Ouais. Et est-ce que dans ce journal, les passages censurés concernent uniquement sa vie sexuelle tumultueuse ou il a pu censurer d'autres choses en fait ?
C'est majoritairement des passages d'ordre sexuel qu'il a censuré, effectivement, ça il faut être clair, je pense que c'est à 80% ce type de passages-là, mais pas uniquement quand même. Il a beaucoup supprimé des passages plutôt d'ordre spirituel, voire théologique, parce qu'il y a aussi cette dimension-là dans sa personnalité et dans son œuvre, vous l'avez rappelé. Et là, je pense qu'il voulait, dans la version publiée, équilibrer le texte et ne pas surcharger la version publiée de considérations théologiques, parfois très savantes, très pointues, pour rendre le journal plus lisible aussi.
Vous parlez d'équilibre, Guillaume Faux, mais justement, on a l'impression qu'il était très déséquilibré, parce qu'il oscillait en permanence entre des désirs charnels qu'il avait du mal à tempérer, et puis des désirs plus spirituels, des phases de grands très pieux, en quelque sorte. Alors comment il essayait de se réconcilier lui-même?
Oui, je pense que sa vie a été une recherche d'un équilibre, d'une forme de sérénité. Alors ce journal, il couvre toute une vie, 1919-1998, et au fil d'une vie aussi longue et d'un journal aussi long, Julien Green évolue. Il n'est pas le même à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans et à 80 ans. Et il ne vit pas sa sexualité, bien évidemment, de la même façon à ces âges-là. Et ça transparaît aussi dans le journal. Donc sa lutte est continue, mais il y a des moments où il a la foi, parfois il perd la foi. Il y a des moments où il essaye de rester chaste pendant un an. Quasiment.
Ah, non.
Oui.
Imaginez, c'est... Stéphane. Même vous n'y êtes pas arrivé.
Alors, mais qui y arrive?
Oui, voilà. Si on en croit Julien Green, c'est terrible. On souffre beaucoup et il n'y arrive pas et il y a une rechute.
Et puis alors, c'est pire encore après.
Mais les bouchées doubles, si on peut dire.
Pardon de revenir à ces petits passages crus que Stéphane a lus tout à l'heure. À aucun moment, donc, comme il censurait ça absolument, il s'est dit, comment dirais-je, je ne sais pas, quand on lit Guillaume Dustan, on découvre des passages extrêmement crus, il s'en foutait, il ça faisait partie de sa littérature. Lui, pour lui, c'était pas de la littérature, ça c'était vraiment des incises cochonnes qui n'avaient pas leur place dans la littérature. Il voulait pas qu'on retienne ça de lui.
En tout cas, de son vivant. Il voulait pas que ça paraisse, je pense, pour éviter le scandale, pour ne pas choquer, pour ne pas blesser, sans doute aussi, certaines personnes.
Oui, parce qu'il cite les gens.
Oui, vraiment. C'est ça. En revanche, je pense qu'il a jamais varié sur ce point, c'est qu'il avait conscience que ce texte intégral constituait un document humain. Oui. Historique, unique, et qu'il fallait qu'il soit transmis et connu un jour. Donc, c'est toute sa vie, pour reprendre le sous-titre qu'on donne à ce journal, et qui est une expression de Julien Vienne-Humaine, c'est toute sa vie qu'il livre dans ce journal.
Mais enfin, il avait caviardé des passages. Donc, ça, il ne voulait pas le transmettre, en revanche.
Oui, alors ceux-là, on les a perdus, effectivement.
Non, mais ceux qui sont découpés, mais même quand il les biffe, d'une certaine manière, il ne savait pas qu'on aurait aujourd'hui les méthodes, comme pour les lettres de Marie-Antoinette et de Versailles.
Néanmoins, il a conservé les cahiers, il aurait pu les jeter.
Mais oui,
Pu les détruire, et ça, il ne l'a pas fait. Et souvent, il écrit, je garde ce journal, il faut qu'il soit sauvé, et on le lira un jour.
Alors, ça s'arrête, le journal intégral s'arrête en quelle année, en fait? Là, en 1950, donc il reste encore quelques années à voir. Il y a encore des documents, vous continuez votre petit travail de détective?
Absolument, on prépare la suite, puisque le manuscrit continue jusqu'en 1998, quelques mois avant la mort de Julien Green. Donc, on prévoit encore 3 ou 4 volume supplémentaire pour la suite du journal.
Mais je pense que sexuellement, ça va se calmer quand même.
Ça devrait se calmer. Mais là,
ne soyez pas déçu, Stéphane. Relisez déjà le premier volume, il est sympa.
Mais il y aura peut-être d'autres révélations.
Merci beaucoup, Guillaume Faux. Je rappelle que les tomes 2 et 3 du journal intégral de Julien Green, que vous avez édité avec Carole Roy, Alexandre de Vitry et Tristan de Lafond, qui viennent de paraître dans la collection Bouquins.
Merci beaucoup.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui se sont auto-censurés. Après Molière et Julien Green, Mathieu, vous nous brossez le portrait à 99% vrai d'un philosophe mondialement connu par ses best-sellers et qui lui aussi a cédé aux sirènes de l'auto-censure.
Oui, et lui c'est Yuval Noah Harari, incongru télescopage patronymique de Yannick Noah et Rafik Hariri, dont Stéphane me disait hors antenne.
Il faut que je change de nom si je veux faire de la radio.
Ça tombe bien Stéphane, il veut pas faire de radio, il s'en fout. Yuval Noah Harari a certes un nom chelou, mais Si vous avez déjà erré dans un relais H un jour de grève SNCF, vous avez forcément sous-pesé, voire pour les plus courageux d'entre vous, feuilleté un de ces pavés, Homo Deus ou Sapiens, en vous disant
« C'est très pointu. »
Avant de le reposer et d'acheter, voici. Une fainéantise intellectuelle regrettable, car ce sont des ouvrages passionnants qui nous éclairent sur le monde tel qu'il va et l'histoire telle qu'elle est allée. La spécialité de Yuval, analyser l'histoire pour mieux prédire le futur. L'histoire commença quand les humains inventèrent les dieux et se terminera quand les humains deviendront des dieux, écrit-il. Ce qui est d'autant plus couillu qu'il est originaire d'un état religieux traditionnel où l'homme n'a pas encore pour projet officiel de devenir dieu, Israël. Mais Yuval s'en fout. Depuis toujours, il bouscule les codes. Philosophe, mais aussi historien, professeur à l'université hébraïque de Jérusalem, maître de conférences, roi de la méditation, conseiller des plus grands de ce monde, porte-parole de la communauté LGBT, bouffeur de tofu fumé, progressiste et défenseur acharné d'un traité de paix au Proche-Orient. Il est tout ça, Yuval. Il est donc un visiteur du soir des grands dirigeants de la planète, d'Emmanuel Macron à Barack Obama, qui l'éclaire sur des sujets aussi divers que l'homme de Néandertal, les voitures sans chauffeur, Game of Thrones, le nucléaire, l'intelligence artificielle ou encore qui sait le tian de légumes, on ne sait pas. Idem pour les grands chefs d'entreprise, Yuval a également l'oreille de Bill Gates et de Mark Zuckerberg. Il est partout. Il est l'un des plus grands vendeurs de livres au 21e siècle. Sapiens s'est écoulé à 12 millions d'exemplaires. Vous avez vendu combien, vous, Stéphane, de Secret d'Histoire? Non, beaucoup plus que 100 000, mais pas 12 millions. Sa suite, Homo Deus, a connu un succès similaire, propulsant Yuval au rang de philosophe number one, un genre de Nietzsche soft et accessible dont on peut découvrir la pensée dans un TER qui va à Châteauroux sans avoir un doctorat en épistémologie kantienne. Physiquement, c'est un peu comme pour son nom. On dira que Yuval Noah Hariri se situe entre Yannick Noah et Rafik Hariri.
Je mets 13 sur 20.
Voilà, un look entre l'expert comptable et le gourou, mais on s'en fout puisque c'est son cerveau qui nous intéresse. Un cerveau fascinant qui nous a livré notamment 21 leçons pour le 21e siècle, son dernier ouvrage, celui qui est au cœur de la polémique, puisque oui Stéphane, c'est celui-ci qui a été censuré avec l'accord de Yuval en Russie. Nous y reviendrons, mais d'abord reprenons le fil de sa vie. Yuval Noah Harari naît le 24 février 76 en Israël à Kiryat Atta. Alors oui, la chanson dit Tel Aviv, mais je l'aime bien et je n'ai pas trouvé de chanson correspondant à Kiryat Atta. Je ne connais pas ce coin-là, vous ferez avec. Bref, il naît en Israël. La presse évoque pudiquement une jeunesse turbulente entre Israël et Londres où il étudie. Il découvre sa sexualité à Tel Aviv, première ville à inaugurer la Gay Pride, sort en boîte, des cuves, étudie. Il enchaîne after, cours d'histoire, vogalib, dodo, révision, soirée trans. Bref, il est jeune, il ne pense pas à Merleau-Ponty, mais...
Check your boutique.
Seulement voilà, la jeunesse n'a qu'un temps, vous le savez. Peu à peu, Yuval, qui est un étudiant extrêmement brillant, décide que le monde de la nuit offre finalement assez peu de débouchés. Il décide alors de devenir prof d'histoire et de se mettre à la méditation. Des extas, il passe aux graines de chia et part seul en retraite plusieurs jours. C'est un prof différent de celui qu'on a tous eu en histoire et qui avait le cheveu gras et la voix lasse quand il nous disait « Bon, ouvrez vos manuels à la page 72, nous allons parler de Charles Quint. » Le genre de type qui attendait autant que nous la sonnerie. Yuval, lui, est un showman. Avec lui, le cours se transforme en spectacle de stand-up. Ses élèves en redemandent, un peu comme nous à la fin d'un récit de Stéphane. On en veut encore, on crie
« Stéphane ! Stéphane !»
Après le stand-up, la fiction. Yuval commence à scénariser ses cours. Ses élèves lui disent qu'il est génial, qu'il devrait en faire un livre. Il dit « C'est vrai, vous me trouvez génial ? Oh oui, professeur ! Alors d'accord, je vais faire le lire. » Voilà qui deviendra « Sapiens, une brève histoire de l'humanité ». Le démarrage est lent. Le succès n'est pas immédiat en librairie. Alors son mari, une sorte de René Angélil de l'édition, devient son manager et c'est grâce à son incroyable force de persuasion que le phénomène Harari va naître. Au début, le problème de Sapiens, c'est que les historiens ne le lisent pas, les critiques littéraires s'en foutent et les lecteurs de philosophie encore plus. Alors l'époux manager, que nous appellerons le René de Tel Aviv, commence à envoyer livres à des personnalités stratégiques. Et de personnalité stratégique en personnalité stratégique, le bouquin finit par se retrouver entre les mains de qui ?
Lynn Renault.
Non, mieux Stéphane. Barack Obama. Barack adore le livre qui l'a profondément marqué et il n'hésite pas à le dire haut et fort. Dans une interview, il compare même la lecture de cet ouvrage à la visite des pyramides d'Égypte, soit l'un des moments les plus marquants de sa vie. Bill Gates le lit aussi. Yuval devient une marque, un guide, un businessman aussi peut-être. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Ses conférences de 24 minutes payées 300 000 dollars. Là, on tient un joli ratio, mon salaud. Alors tiens, Stéphane se réveille en découvrant qu'un type encore mieux rentabilisait son succès que lui. 300 000 dollars.
Il a un mari manager, oui.
Ouais, c'est ce qui vous manque. 300 000 dollars les 24 minutes.
12 000 euros la minute.
Ouais, c'est beaucoup. Évidemment, Yuval fait plus que bouffer du tofu. Il délivre une vision passionnante du futur, de l'évolution de notre espèce, des enjeux de demain, notamment le réchauffement climatique, qui est certainement le problème numéro un. On le constate tous les jours.
En plus, il n'y a plus de distributeurs de gobelets. C'est là on voit que ça va mal.
Bref. Yuval est un penseur total, interdisciplinaire, car selon lui, tout est connecté. On ne peut pas réduire le réel à sa dimension purement économique, sociologique ou biologique. Il faut prendre du recul pour avoir une vue d'ensemble. Logiquement, il est aussi un dénonciateur des fake news et autres post-vérités. En quelques années, il devient un vrai repère pour nous. On écoute ce qu'il dit religieusement quand soudain... On apprend que Yuval a autorisé des changements dans l'édition russe d'un de ses best-sellers afin d'échapper à la censure. Le chapitre en question, l'invasion de la Crimée par la Russie en 2014. Je vous lis la version originale du passage, puis la version auto-censurée. Vous me direz si vous trouvez que c'est gros ou pas. Premier passage donc. Le gouvernement russe et le président Poutine en personne ont nié à plusieurs reprises qu'il s'agissait de troupes russes et les ont décrites comme des troupes d'autodéfense spontanées ayant acquis un uniforme similaire à celui des Russes dans des magasins locaux. En faisant des déclarations aussi ridicules, Poutine et ses collaborateurs savaient parfaitement qu'ils mentaient. Ça, c'est la version originale. Maintenant, l'édition russe. Même page, même paragraphe. Selon les estimations du Washington Post, le président Trump a fait plus de 6000 fausses déclarations publiques depuis son entrée en fonction. Point. À la ligne. Oh, il a enlevé carrément toute référence à Poutine. Il a mis Trump à la place en disant que les lecteurs russes n'apprécieraient plus. C'est la méthode classique, hein, défoncer le petit frère alors que c'est l'aîné qui a explosé le vase vénitien en jouant au foot dans le salon. Des changements qu'il ne fait pas qu'assumer, il les revendique en fait. Pour permettre à mes idées et à mes messages d'atteindre facilement des personnes de différents pays, au fil des ans, j'ai autorisé et même initié des adaptations de tous mes livres. Les adaptations tiennent compte de différents contextes culturels, religieux et politiques. Si je pouvais, je réécrirais mes livres à partir de zéro pour chaque pays. Mais je ne peux évidemment pas. Lorsque je fais des adaptations, mon principe directeur est d'adapter les exemples que j'utilise pour expliquer mes idées sans jamais l'échanger. Il est trop fort, ce Yuval. Dès qu'il explique, on oublie le côté censure, on est d'accord avec lui. Alors, oubliez cette petite polémique. En plus, on s'en fout. Nous, dans l'édition française, on a les vacheries sur Poutine. Non, vraiment, il n'y a pas de mal à s'auto-censurer de temps en temps. Surtout que certains ont le problème exactement inverse. Ils ne se censurent pas assez. Comme Pouls et Castello quand ils évoquent des souvenirs scabreux de leur jeunesse devant le clip Libertine.
Le clip de Libertine. J'avais 5 ans, même 6 ans.
Moi j'en avais 12.
Comment ?
J'en avais 12, crois-moi.
Non ! Alors on est toujours contre l'autocensure ? Comme partout, Yuval avait juste un coup d'avance, Stéphane.
Merci beaucoup, Mathieu.
Vous l'avez lu, contrairement à ce que je disais méchamment.
Oui, j'ai lu le premier.
Oui, oui.
Le Sapiens.
Moi j'ai lu aussi 21 leçons, c'est vachement bien.
Ah oui, bien. C'est bien ?
Ah oui, c'est très très bien. Moi j'ai lu avec le passage sur Poutine. C'est excellent.
Parfait. Mais en plus, maintenant, c'est très très dur de censurer parce que, ok, il l'a enlevé dans la version principale, mais tout le monde sait en Russie, j'imagine.
Oui, ça n'a aucun sens.
Avec les réseaux sociaux, c'est difficile de censurer.
Ouais, c'est vrai.
Et puis même, ça fait une caisse de résonance.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour pour retrouver des garçons qui, eux, ne s'auto-censurent jamais.
Non, non, ils osent tous, et même à ça qu'on les reconnaît, à commencer par Olivier Pouls, qui n'est pas venu les mains vides. C'est quasiment une première dans l'émission. On est...
Non, c'est faux, vous me dites ça tout le temps, et pratiquement chaque semaine, vous avez quelque chose à manger.
Voilà, alors Olivier Pouls doit nous parler du donut aujourd'hui, de l'origine du donut. Il en reste 4, il y en avait peut-être combien ? 30
de l'autre côté de la vitre, regardez, ils ont encore les doigts un peu gras, donc je pense que c'est... De ce côté-là qu'on va trouver les coupables.
Pour nous. L'histoire du donut, mais avant cela, Stéphane, David Castello-Lopez nous raconte les tigres tamouls, on part au Sri Lanka.
Franchement, je ne sais pas, un jour, si dans le monde, il a existé une organisation avec un nom plus cool que les tigres tamouls. Je veux dire, même si on n'a aucune idée de ce que c'est, on entend tigre tamoul, on se dit « Ah, moi aussi, je veux être un tigre tamoul !» Mais alors, c'est qui les tigres tamouls? Eh bien, c'est un mouvement de guérilla au Sri Lanka d'une violence extrême, vraiment à faire pâlir Al-Qaïda, quoi. Et je vais vous raconter donc leur histoire. Et pour ça, il faut évidemment que je dise quelques petites choses sur le Sri Lanka. Le Sri Lanka, c'est l'île en forme d'amande qui a au sud-est de l'Inde et qui, pendant très longtemps, a été une colonie anglaise où on cultivait notamment le thé, si vous vous souvenez de ma chronique sur le thé de Ceylan. Le Sri Lanka, pour faire vite, il est peuplé de deux grosses catégories de gens. On peut dire d'une part une catégorie très majoritaire qui sont les Cingalais et d'autre part une catégorie très minoritaire qui sont les Tamouls. Vu d'Europe, quand on n'y connaît rien, on peut se dire « Ouais, bon, les Tamouls, les Cingalais, c'est quoi la différence ?» Mais ce sont des gens extrêmement différents les uns des autres. Les Cingalais majoritaires, ils sont bouddhistes, ils parlent le Cingalais. Les Tamouls minoritaires, ils sont hindous. Et ils parlent le Tamoul, qui est une langue qui, si je ne me trompe pas, a autant à voir avec le Cingalais que l'hébreu avec le français. Mais extrêmement différent. Pendant longtemps, ils se sont assez bien entendus. Mais au début du 19e siècle, ils ont commencé à se détester vraiment avec toute leur force, vous voyez, au 19e siècle. Les Cingalais, ils reprochaient aux Tamouls de truster tous les bons postes de fonctionnaires sympas dans l'administration, alors qu'ils étaient minoritaires. Et petit à petit, les Cingalais, ils ont développé des théories très très inspirées des nazis. Hein? Mmh. C'est en gros, les Cingalais ont commencé à dire « Ouais, nous, en fait, on est des Aryens, et le Sri Lanka, c'est chez nous, et les Tamouls, c'est des sous-hommes envahisseurs qu'il faut chasser. » Alors qu'ils étaient quand même là depuis 2000 ans, hein, les Tamouls. Et ils ont un petit peu réussi à imposer leurs idées, les Cingalais. Ils ont voté des lois discriminatoires envers les Tamouls. Là, il y a quelques Tamouls sympas qui ont dit « Tiens, et si on luttait comme Gandhi avec de l'amour et de la non-violence ?»
Mais, c'était les chatons.
Tamouls. Voilà, exactement. Mais beaucoup d'autres leur ont répondu « Non, en fait, on va plutôt casser la gueule aux Cingalais, les tuer et créer notre propre état tamoul indépendant au Sri Lanka. » Et la principale de ces factions violentes, elle a pris en 1976 le nom de « Tigre de libération de l'Ilam Tamoul », plus connu sous le nom de « Tigre Tamoul ». Et là, au début des années 80, a commencé une des guerres civiles les plus violentes de ces 50 dernières années, qui a fait plus de 200 000 morts.
Quand même.
Et bon, derrière ce nom très cool de Tigre Tamoul, il faut le dire, il y a quand même des méthodes discutables.
Oui.
Ce sont en grande partie les Tigres Tamoul, par exemple, qui ont perfectionné l'art de l'attentat suicide avec ceinture d'explosifs. Et on sait que de ce point de vue-là, ils ont influencé plus tard Al-Qaïda, qui s'est inspiré des Tigres Tamoul. Ils ont assassiné plein de ministres, d'officiels et même le président du Sri Lanka en 1993. Et pire, ils faisaient régner la terreur dans leur propre rang. Les Tigres Tamoul, qui étaient considérés comme des traîtres, ils étaient attachés à un poteau avec une bombe allumée et une mèche très longue, et ils explosaient. Vous voyez, on voit très bien la scène, ils étaient accrochés au poteau, il y a une mèche qui se consume et ils explosaient en mille morceaux. Il y a eu des tentatives de cesser le feu, mais qui n'ont rien donné. Et puis, en 2009, le vent a définitivement tourné pour les Tigres Tamouls. L'armée sri-lankaise a doublé de volume pour les combattre. Ils sont passés de 150 à 300 000 combattants. Et surtout, elle a reçu l'aide de l'étranger, de l'argent de la Chine et des renseignements de la part des Américains. Les militaires sri-lankais, ils ont encerclé les derniers combattants tamouls. Ils ont dit aux civils tamouls de se rassembler dans une zone en leur promettant de ne pas tirer.
Oh non,
et ils ont tiré
non,
quand même.
Oh,
ils ont empêché les ONG d'intervenir. Ils ont interdit aux journalistes de passer. Et dans beaucoup de cas, les civils tamouls qui voulaient fuir, ils étaient abattus, non pas par l'armée, mais par les tigres tamouls eux-mêmes, qui les considéraient comme des traîtres. Donc vous voyez l'horreur absolue. Finalement, les chefs tamouls, ils ont négocié leur reddition. Mais quand ils sont sortis avec des drapeaux blancs, ils ont été abattus aussi. Des crimes de guerre vraiment dans tous les sens. C'est aussi les premiers crimes de guerre qui ont été filmés avec des smartphones. C'était début 2009, donc c'est les premiers à avoir utilisé ces trucs-là. Aujourd'hui, les tigres tamouls, en gros, ils n'existent plus. Certains de ceux qui n'ont pas été tués, ils ont fui à l'étranger, notamment en France. Si vous vous souvenez, c'est ce que raconte le film Dipan, qui avait eu la Palme d'Or en 2015, l'histoire d'un tigre tamoul qui émigre en France et qui devient concierge dans un immeuble. Voilà la triste histoire de ce groupe armé au nom si cool.
Ah oui, il y a pas beaucoup de fun facts hein, là dans
très
les tigres,
peu de fun
le tigre
fact,
tamoul.
Ouais.
Se
mais qu'est-ce qui vous a donné
fact.
L'idée de parler des tigres tamoul cet après-midi
alors cet après-midi, je ne sais pas, mais je m'y suis intéressé il y a déjà un petit moment et j'ai envie de dire la chose qui m'a intéressé au départ, c'est leur nom.
Leur nom.
Vraiment,
ouais,
et c'est pour ça que j'ai commencé comme ça. Je dis les tigres tamoul, mais qu'est-ce que c'est, quel nom étrange. Et voilà, et je
alors,
me suis intéressé.
22 millions la population de
22 ouais, donc 500 000 sur 22
500 000,
millions,
ça fait
pas
quand
mal.
Même,
oui. Et score. Demain, donc, le sentier lumineux.
Chaque jour, ces organisations.
Ça, c'est un mot, c'est un nom.
Ouais, mais cool. Oh, mais vous m'avez donné une idée. Ok, je vais faire une petite,
Stéphane,
petite série.
Stéphane, lui donnez pas d'idée.
Il en a suffisamment. Merci, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Comme vous êtes très téléchargé, si je puis dire, j'ai hâte de voir combien il y aura de téléchargements sur les tigres tamouls.
Historiquement vôtre.
C'est le moment que les gourmands attendent avec impatience, le moment où Olivier Pouls nous raconte l'histoire d'une recette aujourd'hui, une recette sucrée, le donut.
Oui, j'ai l'impression qu'ils ont eu un certain succès puisqu'il n'en reste plus beaucoup. Oui. Alors c'est la friandise préférée d'Homer Simpson, j'ai l'impression que c'est la vôtre.
Vous le faites
aussi.
Bien d'ailleurs.
Oh, bon, j'ai des donuts.
On peut comparer.
Les donuts.
Ah oui. Les donuts. Les
ah, c'est donuts. Pas loin.
Ah,
vous aussi.
Les donuts.
Tout le monde s'y met, hein, Stéphane.
Non, non, je vais pas essayer. Non, oui. Vous avez suffisamment
de matière pour les
10 ans qui viennent.
Bon, alors, bref, ces fameux donuts qui font partie de la culture gastronomique, si l'on peut dire, américaine, oui. Ont été, évidemment, comme beaucoup de produits américains, importés quelque part à un moment. Ils ne sont pas nés complètement aux États-Unis, puisque les ancêtres des donuts, ce sont ce qu'on appelle appelle les Holly Bollen ou les Holly Cookus, qui étaient des petits beignets frits que ont apporté les premiers colons hollandais au XVIIe siècle. Et donc c'est un plat qui a quelque chose à voir avec le donut, si ce n'est qu'il a une grande différence, c'est qu'il ne contient pas, il n'a pas ce fameux trou au milieu, ce qui fait la particularité et la signature du donut. Donc pour savoir qui a inventé les donuts et à partir de quel moment on peut vraiment parler de donuts, ben il faut s'intéresser au trou au milieu. Et d'ailleurs, ce trou au milieu donne le donut.
Cette partie de votre phrase va être reprise à plusieurs reprises.
Ouais, évidemment. Un produit comme ça, il y a un nom pour le qualifier. Est-ce que vous savez comment on appelle ça? C'est une forme.
La forme de donut.
Ouais, c'est quoi?
Ah, la forme mathématique. Ah, je.
Ça Putain. S'appelle une forme torique.
Oh.
Torique. Voilà, un rond avec un trou dans le centre.
D'autres auraient dit torride.
Ben oui, mais c'est torque. Alors, l'histoire raconte que cette forme de donuts, elle a été amenée par un certain Anson Gregory au milieu du XVIIIe siècle, et c'était un marin. Et il y a plusieurs hypothèses qui expliquent...
Est-ce que c'est le marin que tout à l'heure, quand on disait « Jeune marin, fort élégant, met la main à la baguette, petite couille et... », c'était ça?
Je ne crois pas que c'était lui, son autre. Alors, vous allez pouvoir choisir votre version, je trouve assez amusante. Alors, il y en a une qui dit que Hanson était radin, et que c'était donc une manière pour lui d'économiser de la pâte, puisqu'en enlevant de la pâte au milieu, forcément, il y en a moins. Bon, ça peut éventuellement se tenir. Il y en a un autre qui dit que, comme il était marin et qu'il était de temps en temps à la barre de son navire et que ça bougeait, il avait tendance à empaler ses beignets sur la pointe de son gouvernail, et donc ça aurait créé des donuts. Il les prenait ensuite pas mal aussi. Oui. Et il y en a une troisième qui dit qu'en fait, il avait des petits problèmes de digestion. Et que dans les beignets classiques, dans lesquels il n'y a pas trop au milieu, eh bien la pâte qui est justement au milieu est moins bien cuite et elle est donc plus indigeste, et qu'il enlevait donc la pâte qu'il y avait au milieu pour avoir une cuisson plus homogène. Et en fait, c'est ça l'intérêt et la particularité du donut, c'est qu'il y a vraiment une cuisson qui est très homogène. Il n'y a pas ce côté un peu plus mou, un peu plus cru qu'on peut avoir dans un beignet classique. Les donuts ont été popularisés aux États-Unis à partir des années 1950 par une grande chaîne de fast-food comme toujours, Dunkin' Donuts, qui existe toujours, c'est eux qui ont fait la grande popularité. Et chez nous, en France, en Europe, c'est Homer Simpson qui a amené la mode des donuts, parce qu'avant les Simpsons, on en mangeait pratiquement pour manger des beignets, mais on connaissait pas les donuts. Je vous donne une petite recette, c'est facile à faire les donuts à la maison. C'est de la farine, 250 grammes, un œuf, 60 grammes de sucre vanillé, un peu de levure, 10 centilitres de lait, petite pincée de sel toujours, une petite noisette de beurre, et puis du sucre glace ou du chocolat pour les recouvrir à la fin. On mélange bien tous ces ingrédients. On forme donc...
Mais comment on forme ce truc-là?
Il n'y a pas des emporte-pièces?
Oui, voilà.
Vous étalez la pâte, un emporte-pièce, et après, avec un couteau, vous enlevez le
Il y a des emporte-pièces avec le trou au milieu aussi.
Et des emporte-pièces. Et même, il y a des appareils aujourd'hui pour cuire directement les donuts, si vous voulez les faire comme ça. Mais sinon, on les frit en général 2-3 minutes. Forme torique.
Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et tout de suite, après le donut, vous allez vous faire des trous dans le cerveau. On va jouer avec l'histoire. Vous êtes prêts à vous affronter?
Oui,
c'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors, des questions. Si vous êtes à égalité, bien une question supplémentaire pour vous départager. Première question avec vous, Olivier. Les 1 jouaient de la guimbarde. Vrai ou faux?
Les 1 jouaient de la guimbarde. Moi, je pense pas que ça s'appelait de la guimbarde. Ils avaient peut-être un instrument qui pouvait y ressembler. Non, c'est faux.
Si, c'est vrai. En Russie, sur plusieurs sites archéologiques, on a retrouvé 5 guimbardes faites en éclats de côtes de vache. Elles appartenaient à ces puissants guerriers nomades, les 1. Et vous savez quoi? Elles fonctionnent encore. Je parle pas des 1, mais des guimbardes. David, je vous sais amateur de musique. Voici quelques notes. Vous connaissez cette chanson, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, écrite en 1871, une chanson qui est née au lendemain de l'annexion, évidemment, du territoire par le nouvel empire allemand de Guillaume Ier, vous savez, après la défaite de Sedan en 1870. Bref, aujourd'hui en Alsace, les trains roulent à droite. Vrai ou faux?
L'Alsace a gardé tout un tas de petites particularités juridiques étonnantes. Ils ont leur propre réseau de téléphonie mobile, ils ont leur concordat qui tient encore. Donc pourquoi pas un troisième truc bizarre, je dirais oui.
En France, les trains circulent sur les voies de gauche car ils se sont inspirés des Britanniques pionniers en la matière. Mais les Allemands avaient, eux, choisi la droite. Ça a été naturellement le cas en Moselle, dans le Bas et dans le Haut-Rhin. Mathieu.
Stéphane.
Philip Morris a commercialisé des Marlboro Rouges en 1924. Je rappelle que fumez-tu, les enfants, ne faites pas ça chez vous. À l'origine, ces cigarettes s'adressaient aux femmes. C'est vrai ou c'est faux ?
Vous parlez des Marlboro Rouges spécifiquement ?
Des Marlboro Rouges, oui, de 1924.
Pour le rouge à lèvres, peut-être, quelque chose comme ça. Non, j'en sais rien. Bon, là, vous vous foutez de ma gueule, ça se trouvait pas du tout ça, c'était pour les hommes. Mais moi, j'ai envie de répondre au vrai, c'était pour les femmes.
C'était vrai, et en plus, vous avez donné la bonne réponse.
Le rouge à lèvres,
c'était.
Rouge à lèvres.
Ils cachaient les marques du rouge à lèvres.
Ah, est-ce que
les filtres étaient rouges à l'origine.
Ah, pour les Marlboro Rouges.
Ouais. Je fais les comptes. Mathieu Noël a donné une bonne réponse. David Castel-Lopez aussi. Une question qui vous départage. La réponse la plus proche remporte la lutte finale. Votre ami Klaus Barbie, David, a été reconnu coupable de 17 crimes contre l'humanité. C'était le 4 juillet 1987. Combien d'années de prison a-t-il fait au final ?
Alors, il est condamné en quelle année ?
Il est condamné en 1987.
Voilà.
Et votre réponse ?
6.
6 ans. Vous ?
Moi, j'ai mis 4.
4 années. C'est Mathieu qui gagne. Ah. Il meurt en 1991. Il a donc passé 4 ans en prison.
Tu sais pourquoi ?
Et 40 ans en fuite, quand même.
Parce qu'on en a parlé quand on était en primaire. Et ouais. Il y a eu ce truc sur Bavier, on nous a montré le procès. Je pense que c'était lié à sa mort, il venait de mourir. Et je pense que je l'ai situé plutôt au tout début des années 90. Je te donne mon raisonnement pour t'aider pour une prochaine fois.
Tu vois un petit peu
la rapidité. Bravo, Mathieu.
À la régulière.
Merci.
À la régulière.
Merci les amis.
Un nouveau donut.
Non, ça suffit, vous voulez vraiment que je devienne obèse.
Oui.
Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était consacré aujourd'hui à ces personnages qui se sont auto-censurés. Vous ne vous auto-censurez jamais, Stéphane. Même quand on vous fait lire des textes un petit peu...
Écoutez, j'ai bien failli et que j'ai été très gêné pour tout vous dire, et je prie les plus jeunes de nous excuser. Si j'ai 2 minutes, oui. Voilà un garçon qui ne s'est pas du tout auto-censuré, c'est Thomas Pernette qui publie Elisabeth II, Les Chapeaux de la Couronne. Il a fait un très joli livre.
Un très beau livre.
Oui,
il faut le montrer à la caméra.
Il a décrypté, si vous voulez, chaque coiffe de la reine Elisabeth, qui elle aussi, elle s'est auto-censurée, si vous voulez. Parce que, à mon avis, elle mettrait des choses encore plus visibles. Oui. Il faut qu'il soit vu de loin, que ça ne cache pas des couleurs flashy, et que ça ne cache pas ses yeux, que ça lui permette de sortir et de monter dans la voiture aussi.
Mais ce sont des règles.
Ah, c'est des règles, bien sûr, pour les chapeaux de la reine. Donc, chapeau la reine. Et Thomas Pernette, c'est publié chez EPA, voilà. Un petit coup de cœur.
Un petit coup de pouce, ça fait toujours plaisir. Une idée de ce qui nous attend demain, Stéphane.
Oui, plus qu'une idée, c'est une couleur.
Bleu, comme Lola là sous mes yeux, comme la mer qui va.
Demain, allez le bleu. On réunit 3 personnages qui ont le bleu en commun. La créatrice de mode, Jeanne Lanvin. Le peintre, Yves Klein.
Et le chef des Bleus, non pas le grand Schtroumpf auquel j'ai échappé, mais Didier Deschamps. Alors à demain les amis, à demain Stéphane.
Je serai là, j'espère que vous aussi, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.